VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. La guerre contre Boko Haram tout d'abord. Le Nigeria a lancé son dernier assaut contre le groupe islamiste. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement nigérian pour les questions de sécurité. Offensive qui fait suite à l'annonce de plusieurs succès stratégiques dans le nord-est du pays avec l'aide des pays alliés. Jean-Roger Bion.
Cette opération militaire a pour but d'anéantir le risque que faisait peser Boko Haram sur toute la région suite à de nombreuses attaques aux frontières des pays voisins. Il s'agit aussi de sécuriser cette zone où les islamistes s'étaient emparés de pans entiers de territoire à la veille des élections présidentielles et législatives au Nigeria. Le scrutin initialement prévu le 14 février a été repoussé au 28 mars à cause de la contre-offensive en cours, les autorités considérant que l'armée occupée sur le front ne serait pas en mesure de surveiller les bureaux de vote. Les deux États voisins d'Adamawa et Yobe ont déjà été libérés du joug de Boko Haram selon Abuja. Pour les trois localités, Abadam, Gwoza et Askira, de l'aide doit arriver, a déclaré à l'AFP Mike Omeri, le porte-parole du gouvernement, qui avait annoncé la semaine dernière que 36 villes en tout avaient été reprises des mains des islamistes depuis le début de l'offensive à la fin du mois de janvier.
Le Niger voisin est pris entre deux feux. D'un côté, Boko Haram, inféodé au groupe État islamique qui attaque dans le sud-est du pays et au Nigeria. Et de l'autre, à la frontière nord, il y a la menace des groupes djihadistes actifs en Libye qui ont prêté allégeance eux aussi à l'État islamique qui contrôle une partie de l'Irak et de la Syrie. Un dossier sur la situation précaire du Niger avec notre envoyé spécial à Niamey, Idriss Fall.
Boko Haram tue au Nigeria pendant que le groupe État islamique décapite en Libye. Le Niger est pris en étau entre les deux pays. Certains croient que le Niger serait protégé par une barrière naturelle que constitue le désert du Sahara. Madame Issa Khadissa, chargée des femmes travailleuses à la CDTN, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger.
Libye, moi je suis sûre, tel que je connais mon gouvernement, ils sont en train de prendre les précautions pour que ces gens ne puissent pas rentrer au Niger. C'est vrai qu'on partage la frontière, mais il y a un grand désert. Pour traverser ce désert, venir nous trouver, c'est pas une petite chose. C'est une autre guerre, traverser aussi le désert.
Le président Mahamadou Issoufou a répété à plusieurs reprises que le travail est inachevé en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi. Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement à Niamey.
La communauté internationale a la responsabilité d'intervenir en Libye. Tous les chefs djihadistes et autres trafiquants se trouvent dans ce pays-là. Et si on ne fait pas attention, ils vont se déverser dans tous les Sahel. Et ça constituerait le danger de cette colonne vertébrale qui va de Boko Haram jusqu'à rejoindre l'État islamique en Irak. Donc la communauté internationale a la responsabilité d'intervenir, mais pas des troupes au sol, mais c'est de neutraliser toutes les têtes, tous les chefs djihadistes qui se trouvent dans cette région-là pour ne pas qu'ils viennent contaminer toute la bande sahélo-saharienne.
Et pour tempérer toutes les ardeurs guerrières, Issoufou Bachar, ancien ambassadeur du Niger à Tripoli et président du parti ADP Zoumounchi à Niamey.
Là aussi, il faut clarifier les choses. L'État islamique date de quelques mois, alors que ceux qui sont à Benghazi et qui sont différents de ceux qui sont à Tripoli, eux existaient depuis une trentaine d'années. Ils ont justement fait allégeance à l'État islamique, mais ce qui est sûr, c'est que l'État islamique ne le contrôle pas. Il y a un problème. La Libye, c'est vraiment trois régions regroupées et le clanisme est très important en Libye. Ils se réfèrent à l'État islamique uniquement pour embêter l'Occident. Ils sont totalement indépendants, totalement autonomes. Et je crois que c'est une alliance vraiment circonstancielle et qui n'est pas structurée. En Libye, il ne peut y avoir de solution ni politique ni militaire. C'est la politique de petits pas. Il faut réconcilier les clans, réconcilier les régions et après réconcilier la Libye. Mais il y a une solution globale pour toute la Libye, elle n'existe pas, elle n'existera pas.
Depuis Niamey, Idriss Fall, VOA Afrique.
Au Sénégal, le président Macky Sall dit vouloir donner l'exemple en Afrique. Il a fait état hier de son intention d'organiser un référendum en mai de l'an prochain pour réduire son mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Un projet à contre-courant de la tendance plutôt inverse sur le continent africain, où certains dirigeants multiplient les mandats. Jacques Aristide.
D'après lui, le référendum va permettre une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et ensuite sur quelques autres aspects pour consolider la démocratie, un engagement qu'il avait pris lors de sa campagne électorale. « Vous avez vu des présidents diminuer leur mandat, moi je vais le faire », a déclaré Macky Sall tel que le rapporte l'AFP. Et d'ajouter, vouloir ainsi donner un exemple, il faut qu'on comprenne, en Afrique aussi, qu'on est capable de donner la leçon et que le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi, a-t-il encore indiqué. Le président sénégalais a par ailleurs affirmé s'impliquer personnellement pour obtenir la libération de militants du mouvement citoyen sénégalais Yan Amar, arrêté à Kinshasa en plein débat en République démocratique du Congo sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État Joseph Kabila.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, les ONG Journalistes en danger et Reporters sans frontières exigent du gouvernement congolais la libération immédiate du journaliste Eric Izami. Ce confrère d'antenne A se trouve aux mains de l'Agence nationale de renseignement ANR après avoir assisté à une conférence de presse animée par des activistes des droits humains dimanche à Kinshasa. Il couvrait le lancement d'un nouveau groupe de la société civile et il est encore dans les cachots de l'ANR en toute illégalité, affirme Cléa Kahn-Scriber, spécialiste de l'Afrique à Reporters sans frontières.
Eric est toujours détenu. La raison officiellement donnée, c'est qu'il n'avait pas sur lui sa carte d'identité, sa carte d'électeur, et qu'ensuite il aurait fait preuve d'agressivité au moment de l'interpellation, qui, je le répète, a été quand même assez musclée. Donc ça, c'est les raisons qui ont été données, mais enfin, même s'il n'avait pas les papiers sur lui, il a dépassé le délai légal de garde à vue de 48 heures. Il n'a eu accès, et d'ailleurs aucune des personnes arrêtées n'ont eu accès ni à leur avocat, ni à leur famille. Donc on voit bien que là, on est dans un cas d'arrestation arbitraire qui, malheureusement, étant donné le bilan des autorités congolaises, peut tout à fait se prolonger pendant des semaines. Donc c'est extrêmement inquiétant que ce journaliste soit encore aujourd'hui toujours détenu, tout ça pour avoir été couvrir une conférence de presse.
Cléa Kahn-Scriber, spécialiste de l'Afrique en Reporters sans frontières, qui était jointe à Paris par Camille Gros-Didier. Élections législatives de mardi en Israël, après dépouillement de l'écrasante majorité des bulletins de vote, le Likoud de droite a obtenu 30 sièges au Parlement contre 24 à son principal challenger, l'Union sioniste de gauche, dont le leader Isaac Herzog a reconnu la défaite. Comme un total de 30 sièges est bien loin de la majorité requise à la Knesset, Benjamin Netanyahou devra forger une coalition de plusieurs partis pour former le prochain gouvernement. Il dit avoir déjà commencé des consultations en ce sens, mais aura-t-il la tâche facile? Un début de réponse avec Scott Bob, le chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem.
Elle ne sera pas facile selon les analystes israéliens parce que c'est tellement serré. Et en plus, certains des partis de droite qui étaient prévus d'avoir 10 à 12 sièges n'ont atteint que 8 à 10. Les partis de droite avec les partis religieux ont une tendance à pouvoir former un gouvernement plus facilement. Mais il y a eu une autre grande surprise et c'est que l'union de 4 partis arabes israéliens, d'après ces sondages, recevrait 13 sièges au Parlement, ce qui leur aurait le 3e pouvoir au Parlement. Ça, c'est une grande étape en avant pour les partis des Arabes israéliens parce qu'ils pourront mieux défendre leurs intérêts.
Scott Bob, chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem. Et maintenant, la Minute économique avec Jean-Roger Bion.
Le comité monétaire de la Banque centrale américaine, la Fed, achève ce mercredi une réunion de 2 jours très observée par les marchés, car la Fed pourrait signaler qu'elle va relever les taux d'intérêt dans les mois qui viennent. La présidente de la Fed, Janet Yellen, donne une conférence de presse ce soir, sa première de l'année après la tenue d'une réunion du comité de politique monétaire. Les marchés auront les yeux braqués sur l'événement qui pourrait avoir un nouvel impact sur le dollar. Le billet vert n'a cessé de s'apprécier depuis le début de l'année par rapport à l'euro, dans l'anticipation d'une remontée des taux aux États-Unis. Vers la création à Bamako d'une organisation sous-régionale autour du fleuve Comoé, des concertations ont débuté hier dans la capitale malienne en présence des représentants du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et de la CEDEAO. L'organisme du fleuve Comoé est l'une des 3 nouvelles organisations de bassin frontalier dont la création est préconisée et soutenue par le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO.
Et pour terminer, en Guinée, le président Alpha Condé a mis en garde hier contre un relâchement des efforts contre l'Ebola, particulièrement à Conakry, et ce pour éviter une nouvelle recrudescence de l'épidémie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.